N'attendez plus pour découvrir Cyanure, le nouveau thriller de Laurent Loison, et participez directement à l'enquête explosive autour de meurtres en rafale. Cyanure, le premier roman dans lequel le lecteur est acteur du dénouement. Cyanure, de Laurent Loison, aux éditions Hugo Thriller, actuellement en librairie.
Spectateurs quand les épate, c'est ça qui les intéresse.
Beaucoup de silence et beaucoup de justesse.
Moteur !
Tout le 7e art est sur Europe 1.
On se croirait à Hollywood.
Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour.
Vous faites rêver des milliers de gens parce que vous êtes un magicien.
Un dimanche de cinéma. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande salle obscure qui est un dimanche de cinéma. On va parler de toute l'actualité du 7e art ensemble dans la bonne humeur avec d'abord comme invité l'un des quadragénaires les plus populaires du cinéma français. Vous l'avez vu notamment dans Les Petits Mouchoirs, La French, Les Infidèles, Rock'n'Roll ou plus récemment Le Sens de la Fête. Gilles Lellouche sera mon premier invité pour le très beau film de Mélanie Laurent, Plongée, qui sort mercredi. Notre chronique musique de film aujourd'hui... Nous reviendrons sur la leçon de piano de Jane Campion, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1993. Il ressort dans quelques salles l'occasion pour Thierry Geffrotin de disséquer sa bande originale magnifique. Ensuite, Noël approche, Noël et ses dessins animés, Disney notamment.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.
Eh bien, figurez-vous que derrière chaque Disney, il y a de grands concepts philosophiques. Marianne Chaillant, professeure de philo Les Détails, dans un livre qui vient de sortir, elle décrypte 23 Disney. On en parlera avec elle et surtout, on vous donnera quelques clés pour expliquer à vos enfants ce qu'ils regardent. Et puis, à la fin de l'émission, l'avis des autres, on débat avec mes collègues critiques des films qui sont en salle. Au programme aujourd'hui, Le Brio avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana, Battle of the Sex, Madame d'Amanda Sterz, et puis nous reviendrons sur Marilyn de Guillaume Gallienne qui divise la critique. Voilà pour le menu, mais d'abord les infos ciné. Woody Allen était à Paris cette semaine. Il nous a accordé 20 minutes d'entretien que nous diffuserons dans un dimanche de cinéma en janvier à l'occasion de son nouveau film Wonder Wheel. Mais pour une petite mise en bouche, il nous a aussi parlé du film suivant qui est déjà tourné lui aussi, Rainy Day in New York. Pour un dimanche de cinéma, voilà l'histoire.
Ça parle de deux jeunes gens qui arrivent à New York. Ils veulent passer un week-end là-bas. Et puis ça va, le temps va être mauvais. Pleuvoir. Et donc, ils vont se retrouver dans une série d'aventures qui, j'espère, seront drôles et romantiques. C'est avec Elle Fanning. Je fais les films et je me dis que les films vont être géniaux. Et en fait, la plupart, ils sont jamais géniaux.
Voilà, en attendant, A Rainy Day in New York, il y a Wonder Wheel qui sort donc le 28 janvier. Nous en reparlerons évidemment avec Monsieur Woody Allen. Le nouveau film de Bertrand Blier va réunir à l'écran Gérard Depardieu et Christian Clavier. Ça fait 15 ans qu'ils ne s'étaient pas retrouvés au cinéma. À l'époque, c'était pour Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Cette fois, le film s'appellera Convoi exceptionnel et racontera l'histoire d'un homme qui en rencontre un autre qui porte le scénario de sa vie sous le bras. Édouard Baird sera également au casting, tournage prochainement. Camille Saint-Saëns, la traditionnelle musique du Festival de Cannes avec la 71e édition qui aura lieu du 8 au 19 mai 2018. Ce qui veut dire que désormais le festival commencera un mardi et non plus un mercredi pour se terminer un samedi soir au lieu du dimanche. Objectif plus de prestige, explique le président du festival.
C'est pouvoir ! Bien joué, bébé !
Les Indestructibles vont faire leur retour sur grand écran. La famille de super-héros sera là au complet avec Hélas Girl, La Flèche Violette, Monsieur l'Indestructible qu'on entend avec le bébé Jack-Jack qui est en train de découvrir ses super-pouvoirs. Le premier volet des Indestructibles sorti en 2004 avait totalisé 633 millions de dollars de recettes dans le monde et la suite est donc attendue pour le 4 juillet 2018. Voilà pour les infos ciné. J'accueille maintenant dans ce studio mon premier invité.
Europe 1. Un dimanche de cinéma.
Alors bonjour, je suis un acteur brun avec un gros menton.
Bonjour Gilles Lelouch.
Bonjour.
C'est une présentation courte mais efficace.
Oui.
On a le plaisir de vous recevoir pour le film Plongée de Mélanie Laurent qui sort mercredi prochain, qui est adapté du livre de Christophe Onodibio, dans lequel vous jouez César, qui est un ancien reporter de guerre, qui a un peu envie de se poser, qu'on a un peu marre de tous ces conflits et de cette vie sur les routes. Il tombe fou amoureux de Paz, qui elle est une photographe espagnole. Paz va tomber enceinte, vous allez avoir un bébé ensemble. Sauf que cette étape-là dans sa vie va faire ressurgir beaucoup de démons passés et une envie de liberté qui renaît chez elle. Et c'est le début des ennuis. On écoute un extrait.
C'est quoi, j'ai compris un truc. En fait, il n'y a pas de place pour les autres avec toi. Il n'y en a aucune. Il y a trop de choses dans ta tête. Donc n'existe pas. Il n'y a que toi qui existes. Toi. Tes idées, tes problèmes, tes angoisses, ton inspiration, ton manque d'inspiration. Oui, ça existe, ouais.
Pourquoi tu restes? C'est ce que tu penses de moi.
Je comprends pas pourquoi je reste. Je reste parce que je t'aime. Je t'aime.
C'est une scène qui est assez forte, Gilles Lelouch. C'est le moment où vous sentez qu'elle vous échappe, finalement.
Oui, mais il y en a... Il y a tout un moment comme ça dans le film que je trouve extrêmement touchant, parce que c'est un homme qui est fou amoureux et qui sent que les choses lui échappent. Et la plupart du temps, quand les choses nous échappent, on réagit pas de la bonne manière. C'est-à-dire que, au lieu de sentir cette soif de liberté qu'elle a, cette espèce de moment d'étouffement dans lequel elle est, au lieu de relâcher la pression, entre guillemets, et d'essayer de lui donner un tout petit peu de l'est, il appuie, il insiste, il a les mauvais mots, il a les mauvais gestes. Il est maladroit comme les gens qui paniquent. Voilà, quand on sent que les choses nous échappent, on n'a jamais les bonnes attitudes. Et je trouvais que c'était quelque chose d'extrêmement touchant et assez rare au cinéma, finalement. Au même titre que je trouve assez rare de décrire une femme qui, malgré sa maternité récente, a quand même besoin de s'évader pour renaître.
Parce que sans trop en dire, elle va repartir dans son pays. Elle a été déracinée en quelque sorte de son Espagne. Donc elle va repartir sans vous ni l'enfant. Elle va vous laisser tous les deux.
Oui, mais en fait, il faut considérer ça ni comme un abandon, ni comme quoi que ce soit d'autre. C'est juste une parenthèse pour elle, parce que c'est une artiste, c'est une photographe, et qu'elle a besoin de retrouver une certaine aventure dans sa vie, un certain goût du risque, et puis des rencontres nouvelles. Et puis voilà, elle est plus jeune que lui, elle a d'autres aspérités que lui. Et donc c'est un angle très nouveau, je trouve, que de pouvoir traiter de façon adulte la maternité pour une femme, la façon dont les couples sont pas forcément à l'écoute l'un de l'autre, que on projette souvent sur l'autre ce qu'on aimerait bien qu'il soit, mais c'est pas forcément la réalité. Voilà, c'est tout, le film de Mélanie pour ça est très très nouveau.
Et vous allez partir à sa recherche. Justement, vous parliez de la relation à l'art et de comment, finalement, elle vit cette relation à son art propre. Vous avez été confronté parfois dans votre carrière à devoir renoncer à une certaine vie familiale, une certaine vie amicale, une certaine vie personnelle pour votre art qui est fait jouer l'acteur.
Bien sûr. En fait, les tournages peuvent se passer loin de chez vous. Donc ça m'est arrivé, oui, en tout cas... pas complètement d'être hors la vie, mais d'être un petit peu éloigné de ce que pouvait être ma famille, de ce que pouvait être voir grandir ma fille. Oui, j'ai raté certains chapitres, oui, pas des livres entiers, mais certains chapitres.
Alors Gilles Lelouch, dans ce film Plongée, vous jouez aussi un rôle qui est assez dramatique. C'est pas forcément un domaine dans lequel on a l'habitude de vous voir pour nos auditeurs et pour la majorité des Français. On vous retient surtout dans vos rôles plus comique, on va dire, ou en tout cas plus léger.
Mais c'est marrant parce que...
Parce qu'en fait,
j'en fais pas beaucoup de la comédie.
Oui, mais c'est l'image que vous avez, parce qu'aussi sur les plateaux, vous êtes plutôt souriant,
Oui, je suis pas le brin ténébreux qui fait la gueule. Il faudrait que j'apprenne à cultiver ce petit côté mystérieux.
Oui, c'est ça, ce côté mystérieux.
Mais non, mais en fait, c'est étonnant parce que j'aborde vraiment la comédie pour la première fois cette année. Vraiment en tant qu'acteur. J'ai pas eu tant de rôles de comédie que ça. Non, mais je me suis retrouvé sur des films qui ont eu des gros succès, comme Les Petits Mouchoirs, où j'avais le rôle, on va dire, le plus drôle, mais c'était pas non plus un rôle comique. Et à part cette année où j'ai vraiment, entre le film de Dominique Farrugia et le film de Toledano Nakash, où j'ai vraiment exploité ce côté-là.
Sous le même toit et le sens de la fête.
Exactement. j'ai pas fait de comédie, en fait, moi. Donc c'est étonnant, ça. Parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit.
Et vous êtes préparé à la plongée, puisque vous plongez bas, profond dans ce film, pour chercher toujours Paz. Vous êtes à la recherche, on ne peut pas trop en dire parce qu'on ne va pas dévoiler l'intrigue, mais ça vous amène à vous mettre vous-même en danger et à aller plonger profond, on a l'impression.
En fait, j'ai dans tous les sens du terme, parce que même en moi-même, pour être honnête, mais pour faire de la métaphore un peu de PMU, mais je savais plonger, j'avais une sorte de paddie de base, l'open water, où on peut descendre à 15-20 mètres. Mais là, il a fallu que je descende beaucoup plus profond, parce que je suis descendu à 60.
Oui.
Donc j'ai eu quand même un entraînement, j'ai quand même été coaché pour ça. Mais
60, on voit plus rien.
Non, franchement, 60, c'est pas marrant du tout. C'est autant dès qu'il y a des choses à voir, dès qu'il y a des rochers, des poissons, une végétation, tout ça, c'est extraordinaire, parce que c'est un voyage. Mais alors descendre à 60 mètres, il n'y a plus de relation ni au soleil, ni à la surface.
Ouais,
c'est noir.
Vous ne savez plus où vous êtes, quoi.
Vous ne savez plus si vous êtes en bas, en haut, à gauche, à droite. C'est assez flippant. Ouais. J'ai expérimenté l'angoisse, là. Très fort.
Et ça vous a servi aussi pour le reste du rôle ?
Pas du tout. Pas du tout. J'ai juste angoissé.
Juste le moment.
Voilà, juste flippé ma race, comme on dit.
Gilles Lelouch à l'affiche du film Plongée de Mélanie Laurent qui sort mercredi prochain. On fait une toute petite pause et on vous retrouve. On va revenir maintenant sur votre carrière plus large depuis les premiers clips musicaux que vous faisiez.
Avec joie.
À votre prochain film, Le Grand Bain.
Avec joie.
À tout de suite.
Carrefour.fr. Tout le 7e art est sur Europe 1. Un dimanche de cinéma, Mathieu Charrier.
Et on est toujours en compagnie de Gilles Lelouch pour le film Plongée de Mélanie Laurent qui sort mercredi prochain. Alors c'est le moment, Gilles, où on revient un petit peu sur le reste de votre carrière. Qui a commencé avec ça ?
Quand tu t'en vas, que tu me laisses pour aller vers d'autres amants, que tu ne tiens plus tes promesses.
Les auditeurs auront peut-être reconnu Danny Briand.
Oui.
Parce qu'au début de votre carrière, vous faites le cours Florent, mais très vite vous passez à la réalisation et vous tournez des clips musicaux, notamment celui de Danny Briand. Ouais.
J'ai rigolé parce que je me rappelle du clip, donc ça me fait un peu...
C'est un clip.
C'est un clip qu'on
un peu kitsch, on peut dire.
Ah, mais super kitsch. En fait, je voulais faire une sorte d'hommage à la piscine de Jacques Derek. Et c'est totalement. Bon, c'est pas du tout ça. J'ai fait des très bons clips et puis des moins bons. Voilà. Celui-là étant plutôt dans la seconde catégorie. Même si c'est un bon souvenir. Mais oui, j'ai fait beaucoup de clips. J'ai fait beaucoup de clips. Beaucoup de clips de hip-hop notamment. Pour NTM, Solar, Sayan Supakru, des choses comme ça. Et c'était une période géniale parce que à cette époque-là, il y avait encore quand même, on avait encore la chance d'avoir pas mal de moyens pour faire les clips. Donc c'était autant de courts-métrages et autant d'expérimentations qu'on faisait. Quand je dis on, c'était avec mon copain Tristan Arouet avec qui je co-réalisais et avec qui j'ai co-réalisé mon premier film Narco. Donc ça a été vraiment, j'ai fait de la réalisation. Pendant 7-8 ans non-stop. Ouais.
C'est une période qui était déterminante pour la suite, selon vous aussi, qui vous a appris
Ah ben en tout cas, j'ai appris le métier de la réalisation, bien ou mal, mais en tout cas, je l'ai appris. Donc, j'ai réalisé à peu près 25 clips, une quinzaine de pubs, j'ai fait deux courts-métrages. Donc voilà, j'ai été quand même. Moi qui n'ai jamais fait d'école de cinéma, ça m'a. On va dire que j'ai appris sur le tas et c'était pas mal.
Alors après, il y a une rencontre, nos auditeurs le savent sûrement, mais une rencontre qui va changer votre vie, c'est celle avec celui qui est peut-être aujourd'hui encore l'un de vos meilleurs amis, Guillaume Canet.
Bien sûr.
Alors Daniel, vous êtes le voisin de Micheline, c'est bien ça ?
C'est ça, affirmatif.
Votre profession ?
Je suis installateur de fenêtres isothermes.
Dites-moi Daniel, pourquoi vous passez vos journées à espionner vos voisins ?
Il écoute tout, j'ose même plus sortir dans mon jardin.
Mais tu la fermes ta gueule toi, salope !
On se calme Daniel, on se calme.
Mais on se calme pas, elle fait jacter son clébard du matin au soir, j'attaque comme un mont moi. Morue, va.
Un rôle chic.
Mon idole.
Un rôle très chic.
Quel souvenir vous gardez de ce grand début de comédien ?
Bon bah là, c'était plutôt une participation, c'était plus un encouragement de la part de Guillaume qu'autre chose. Mais c'était. Mais en fait, c'est pas tant le rôle que je retiens, c'est cette période qui était assez magique aux productions du Trésor, parce qu'en fait, c'est aux productions du Trésor, donc les productions qui ont produit le film de Guillaume Canet et mon film Narco. On s'est rencontré avec Guillaume autour d'un café un soir, et c'était une époque où il y avait vraiment une espèce d'énergie extrêmement positive, d'émulation entre plein de jeunes artistes. Et c'est vrai que la rencontre avec Guillaume a été prédominante parce que on s'est jamais quitté depuis. On a beaucoup de points communs et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et
qu'est-ce qui fait cette relation justement?
Je pense en fait que moi je l'ai rencontré à une époque, vous saviez, il sortait de Vidocq et les gens n'avaient pas été très tendres avec lui à l'époque, alors que 8 mois avant il l'encensait dans la plage avec DiCaprio. Ça montre un peu les courbes ascendantes et descendantes de ce métier. Et finalement, on s'est rencontrés dans une relation extrêmement saine et franche, tout de suite. Et Guillaume est le seul ami véritable que j'ai dans ce métier, avec lequel je puisse être totalement sincère, honnête et avec qui je peux parler de toutes les vicissitudes complexes de ce métier.
Voilà. Il y a Jean Dujardin aussi qui fait partie de
vous. Oui, bien sûr, mais bien sûr, évidemment.
C'est
mais
plus
Guillaume,
récent, peut-être.
Guillaume, c'est vraiment... Voilà, ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant, donc c'est très ancré, c'est très... On est presque de la même famille maintenant. Ouais.
Vos inspirations aujourd'hui dans le milieu, les acteurs qui vous inspirent, qui seraient peut-être des modèles ou en tout cas des références.
En France?
Oui.
Ouais, il y a beaucoup de gens que je trouve extrêmement talentueux, mais il y a toute une jeune génération que je trouve vraiment formidable. J'aime beaucoup Pierre Ninet, j'aime beaucoup Pio Marmaille, j'aime beaucoup Félix Moati, Vincent Lacoste. C'est des gens que je trouve extrêmement appliqués dans leur travail, que je trouve assez intelligents, qui mêlent une certaine envie de cinéma tout en étant pointu, tout en étant populaire. Enfin, il y a quelque chose d'assez gracieux dans tout ça. Ouais, je trouve qu'il y a toute une jeune génération que je trouve extrêmement estimable.
Vous avez envie de faire tourner ?
Ouais, mais que j'ai fait tourner dans mon film, du reste, dans Le Grand Bain, j'ai fait tourner Félix Moati, par exemple.
Justement, vous me faites la transition, Le Grand Bain qui sortira en octobre 2018.
Ouais.
On en avait déjà un peu parlé l'année dernière quand vous étiez venu nous voir pour Sous le même toit, mais alors, l'histoire de ces quadra quinca qui veulent monter une équipe de natation synchronisée. Ça ouais. Y est, le tournage est fini, c'est en boîte.
Je suis en plein montage. Ça a été un gros tournage, un long tournage, mais un tournage extrêmement heureux et joyeux. Et je pense que ça a été la plus belle expérience professionnelle de toute ma vie. Ouais, j'ai vraiment
avec Mathieu Amalric, Benoît Poulvord,
Guillaume Canet, évidemment, Jean-Hugues Anglade, Philippe Catherine, Alban Ivanov, Félix Moati, Leïla Bekti, Virginie Efira, Marina Foïs. J'ai la totale.
Tout le monde en maillot de bain dans la piscine municipale.
Tout le monde en maillot de bain et surtout ils ont été très courageux parce qu'ils sont entraînés pendant 6 mois parce qu'il y a une grosse chorégraphie à un moment donné, donc c'est pas une discipline simple.
Ouais,
et ils ont vraiment travaillé, ils ont donné de leur corps.
Gilles Lelouch pour le film Plongée de Mélanie Laurent. On va accueillir Thierry Geffrotin qui va nous parler de la musique de film, c'est sa traditionnelle chronique. Et pour se mettre dans l'ambiance, je voulais qu'on réécoute un petit extrait de la bande originale, on en parlait tout à l'heure, des petits mouchoirs. Jet, Are You Gonna Be My Girl?
Un dimanche de cinéma sur Europe 1. One, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you are with me. But you are with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Oh, yeah.
était dans le rock'n'roll avec Gilles Lellouche, la bande originale des Petits Mouchoirs. Gilles Lellouche, qu'on a le plaisir d'avoir dans ce studio d'un dimanche de cinéma pour le film Plongée de Mélanie Laurent. On va changer un peu d'ambiance puisque Thierry Geffrotin nous a rejoint. Bonjour cher Thierry.
Oui, bonjour Mathieu.
Alors la leçon de piano, film culte de Jane Campion, va ressortir sur grand écran dans quelques jours. Et vous vouliez revenir évidemment sur sa musique qu'on a tous en tête.
La musique est très présente évidemment dans le film. Hein, c'est un peu la colonne vertébrale de l'histoire que je ne vais pas raconter parce que voilà, moi je parle musique. Hein. C'est Michael Nyman qui a composé la partition, qui a travaillé d'ailleurs pour Anne Fontaine, vous savez, elle est venue il y a pas longtemps, pour le film Nathalie, avec Diane Curis aussi. Donc il a travaillé avec des Français, lui qui est très british. Hein, il a fait ses études au King's College de London. il a fait du clavecin, du piano, parcours très classique, et il aime aussi la musique minimaliste. Vous voyez, nous on est un peu dans les écarts entre le 17e et le 20e siècle. Et finalement, ce qu'il a composé pour la leçon de piano, ça, c'est aussi un peu de lui qu'on entend. Alors évidemment, il y a du piano. Alors, je vous disais qu'il est grand amateur et compositeur, d'ailleurs, de musique minimaliste. Et bien, on l'entend aussi dans la leçon de piano. Et puis alors, on est quand même au 19e siècle, vous savez, cette histoire de cette jeune femme écossaise. Donc il y a des musiques qui ressemblent étrangement à de la musique populaire, on va dire du 16e ou du 17e siècle, mais c'est à la mode de 1993.
Et voilà pour la leçon de piano. Merci mon cher Thierry.
Alors juste, je voulais ajouter que Gilles parlait tout à l'heure de Philippe Sard et des choses de la vie. Très belle partition.
Magnifique.
Ça, Philippe Sard est un grand compositeur aussi.
Absolument.
Vous écouterez peut-être la bande originale de la leçon de piano pour préparer votre prochain film.
Mais j'écoute beaucoup de bandes originales pour écrire et pour me concentrer, etc. Moi, j'ai une passion pour les musiques de film. Moi.
Ah oui, c'est vraiment. Une belle et grande musique.
Oui, absolument.
Gilles Lellouche à l'affiche du film Plongée de Mélanie Laurent qui sort mercredi prochain. Merci beaucoup d'être venu dans ce dimanche de cinéma.
Merci à vous.
Est-ce que vous aimez les Disney, les dessins animés Disney de Noël?
Non seulement je les aime, mais en plus je les double souvent.
Ça tombe bien, puisque dans quelques minutes, dans ce studio, va s'installer Marianne Chaillant, qui a écrit un grand livre pour nous expliquer que derrière chaque Disney, il y a de la philosophie, figurez-vous. Des petites clés pour expliquer à vos enfants des concepts philosophiques simples.
Génial.
Restez nous écouter en régie, à tout de suite.
Salut.
Un dimanche de cinéma, tout le 7e art est sur Europe 1.
Europe 1, un dimanche de cinéma, Mathieu Charrier.
Et on va maintenant se poser une question dans la suite de ce dimanche de cinéma. Nos enfants sont-ils finalement tous des philosophes en herbe? Peut-être. Marianne Chaillant, bonjour.
Bonjour.
On vous reçoit, vous êtes professeur de philosophie au lycée de Marseille. On vous reçoit parce que vous avez publié un petit livre qui s'appelle « Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux » dans lequel vous nous expliquez qu'en fait, derrière chaque Disney, il y a des grands principes philosophiques. Alors vous en avez analysé 22 au total, on va s'arrêter sur quelques-uns, 22 ou 23. Vous aviez déjà fait la même chose sur Harry Potter, sur Game of Thrones. Expliquez-nous déjà un peu votre démarche, votre approche. L'idée c'est quoi? C'est de rendre la philosophie facile, compréhensible pour tous?
Oui, c'est ça. En fait, j'essaye deux choses. À la fois de rendre la philosophie accessible, de casser cette image de discipline pour vieillards en toge qui ne s'adresse qu'à eux-mêmes. Et d'autre part, de montrer donc qu'elle pense le réel, qu'elle pense notre réel, qu'elle peut nous aider à vivre. Et d'autre part, j'essaie aussi de promouvoir les objets de la culture populaire qui sont souvent discrédités à tort.
Oui, parce que là, on a quelques semaines de Noël. Les DVD Disney, Pixar, il va encore s'en vendre sans doute des millions dans le monde. On a souvent une image des Disney comme des films un peu guimauves, avec des belles princesses, etc. Vous nous dites... Il y a autre chose derrière.
Oui, c'est ce que j'essaye de montrer en tout cas, de casser cette image, guimauve, niaise, caricaturale. Et d'abord, il s'appuie sur des contes. On ne dirait pas de Perrault ou de Grimm ou d'Andersen que ce sont des auteurs guimauves. j'essaye de montrer que Disney non seulement reprend ses contes, ajoute même parfois des idées tout à fait intéressantes sur un plan philosophique.
Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, épreuve appliquée avec ce premier extrait.
Bande de vénards, dégagez le bazar. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idole. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie.
Alors là, c'est le génie qui chante Aladdin. Alors pour vous, derrière Aladdin, il n'y a pas juste un pauvre qui devient prince, si je devais résumer ça comme ça. Pour vous, c'est Montaigne.
Oui.
Expliquez-nous.
Alors, tout est lié à cette fameuse lampe qu'Aladin découvre dans la caverne aux merveilles, lampe dans laquelle il trouve un génie qui lui propose 3 vœux. Et je me suis demandé, comme vous sans doute, quel vœu j'aurais fait.
Devenir riche.
Par exemple. Et puis j'ai lu Montaigne. Et je me suis dit qu'Aladin aurait dû en faire autant. Parce qu'Aladin demande au génie de le transformer en prince. Il s'est épris de Jasmine, qui est princesse, et il pense que lui, le mendiant, Aladin, ne peut prétendre au cœur de Jasmine. Il demande donc au génie la possession de biens extérieurs, la richesse, considérant que celle-ci pourrait lui valoir le cœur de Jasmine. Et en fait, on voit bien que à la fin, c'est parce qu'il assume d'être ce qu'il est qu'il réussit. En fait, dans ce dessin animé, ce qu'on voit, c'est que le bonheur ne vient pas du dehors par la possession de biens extérieurs, mais il vient du dedans par l'assentiment au fond qu'on donne à ce que nous sommes. C'est comme si rien ne nous séparait du bonheur que nous-mêmes. Au fond, le bonheur n'attend que notre accord pour être pleinement vécu.
Et Jasmine, elle tombe amoureuse de lui quand il est pauvre, finalement, et
comme
pas quand
Aladin.
Il est le prince Ali.
Il n'avait pas besoin de lampe, du tout. Et c'est peut-être la leçon de Disney. Nous n'avons pas besoin de lampe pour être heureux.
Les parents qui nous écoutent, vous pouvez comme ça expliquer à vos enfants, devant chaque Disney, les messages qu'il y a derrière. Le jouir et non le posséder nous rend heureux. C'est comme ça qu'on pourrait résumer Aladdin.
Voilà, c'est ça. Je pense être heureux, donc je le suis. Une sorte de cogito eudémonique.
Deuxième cas pratique, si vos enfants regardent le livre de la jungle.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.
Ah là, c'est évidemment Balou qui chante. Balou, porte-parole d'Épicure. Alors, expliquez-nous
voilà,
ça.
C'est la lettre à Ménécée condensée dans cette petite chanson. Dans la lettre à Ménécée, comme dans la chanson de Balou, on apprend que parmi les désirs, il y a des désirs naturels et puis il y a des désirs vains. Parmi les désirs vains, la richesse dont on parlait tout à l'heure, désir qui n'est jamais comblé et qui finalement nous entraîne plutôt dans la souffrance. Si l'épicurisme donne cette image d'être une culture du plaisir, c'est un peu erroné, ce n'est pas n'importe quel plaisir. Pas le plaisir en tout cas que procurer la richesse, parce que ce plaisir serait mêlé du déplaisir de ne jamais l'être tout à fait. Ce que l'épicurisme, comme Balou, nous enseigne, c'est qu'il faut donc réformer nos désirs en sorte de désirer uniquement les désirs naturels et non pas les désirs vains.
Donc expliquer à nos enfants qu'il faut désirer des choses simples.
Désirer des choses simples, bornées, limitées, de sorte que le désir puisse trouver satisfaction.
Ce qu'on remarque aussi dans les Disney, vous les avez classés quasiment par ordre chronologique, c'est que les plus récents s'adaptent aussi au monde d'aujourd'hui. Par exemple, dans Wall-E, il est beaucoup question d'environnement.
Bonjour et toutes nos félicitations, commandant. Si vous êtes en train de visionner ce document, c'est que votre évaluateur de végétation extraterrestre, ou la sonde Eve, est revenu de sa mission sur Terre avec un spécimen confirmant l'existence du processus de photosynthèse. À présent que la vie sur Terre est redevenue possible, je vous le dis, nous pouvons lancer l'opération recolonisation.
Alors Wally nous fait prendre conscience qu'on doit protéger le monde dans lequel on évolue.
Oui, avec Wall-E, qui est un... Si c'était pas signé Disney, on aurait peur d'être dans un film terrible, non?
Cette apocalyptique.
Oui, apocalyptique. La Terre est jonchée de détritus, il n'y a plus d'humanité sur Terre, plus de vie, plus rien. L'humanité est à peine humaine, celle qui s'est évadée dans le vaisseau spatial. Et pourtant, cette fable, ce conte philosophique, je crois, invite les spectateurs contemporains que nous sommes à appliquer l'impératif que Hans Jonas développe dans un livre, le principe responsabilité, de quoi il s'agit. Il nous dit, aujourd'hui, nous possédons les moyens technologiques de détruire le monde. Nous possédons une technologie dont les effets sont irréversibles. Nous possédons une technologie que nous ne maîtrisons même pas, en fin de compte. Et du coup, ce pouvoir nous impose de bâtir une nouvelle morale. Une morale dans laquelle il convient désormais d'agir en sorte de préserver les conditions d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Nous devons faire en sorte que demain l'humanité puisse trouver la Terre de la même manière que nous l'avons trouvée. Donc nous devons nous faire peur, nous devons limiter notre technologie, nous devons bâtir une nouvelle éthique.
On peut l'expliquer à nos enfants facilement en regardant Wall-E pour le
voilà.
coup.
Voilà, c'est ça.
Alors il y a aussi un autre... Disney que moi c'est mon préféré.
Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi.
Et tout ça m'appartiendra ?
Absolument tout.
Alors là, évidemment, on aura reconnu le roi Lion.
Oui.
Le roi Lion, c'est sur la destinée familiale, le déterminisme finalement, savoir d'où on vient quand on est enfant. Est-ce que ça nous oblige à aller dans une direction précise ?
Alors, la question telle que vous la formulez est très intéressante. Ça serait plutôt sartrien. Et moi, j'ai choisi de tirer le Roi Lion plutôt vers les stoïciens dans deux chapitres. Un premier sur Hakuna Matata et le second sur l'extrait que vous citez. Et je me suis demandé si Simba, du fait d'avoir une inscription familiale si lourde, hein, rencontre, le sort est scellé pour lui, hein, et son père lui explique qu'il devra un jour prendre sa place dans le grand cycle de la vie. Est-ce que Simba est libre ou est-ce qu'il est totalement déterminé? Et les stoïciens nous expliquent que la liberté, ça ne signifie pas du tout faire ce qu'on veut quand on veut, comme Simba jeune le croit quand il chante avec Nala à travers les herbes folles. Pas du tout, c'est pas ça être libre. Être libre, c'est accepter de jouer le rôle qui nous a été confié dans un cosmos organisé. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut, mais c'est accepter le déterminisme dans lequel nous sommes pris. Et c'est ce que fait Simba à la fin du film quand il revient et qu'il accepte de prendre à son tour place dans l'histoire de la vie.
La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent.
Exactement. Et d'aimer la nécessité.
Bon, chers auditeurs, j'espère qu'on va s'arrêter là parce qu'on pourrait faire les 23 du livre, tellement c'est intéressant. Il vécure philosophe et fier, beaucoup d'heureux. Merci beaucoup d'être venu dans ce dimanche de cinéma, Marianne Chaillant. Vraiment, je vous conseille ce petit livre, ça coûte 13,50€ et c'est très intéressant. Nous, on se retrouve dans un instant, on va accueillir les critiques autour de cette table avec un gros programme aujourd'hui. On va parler du Brio d'Yvan Attal, de Battle of the Sex, de Madame d'Amanda Sterz et on reviendra aussi sur Marilyn de Guillaume Gallienne. Et puisque dans le Brio, il y a Camélia Jordana, quelle est actrice et qu'elle chante, et bien on va l'écouter chanter. Ce qui nous lie est là, la bande originale du film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie.
Europe 1, un dimanche de cinéma. Mathieu Charrier.
Et dans un instant, on va parler des films sortis en salle avec mes collègues critiques. Mais d'abord, on écoute un peu de musique dans un dimanche de cinéma. Camélia Jordana et la bande originale de Ce qui nous lie, le film de Cédric Clapiche.
Un jour puissant fini. Et des ailes dans les yeux. Fuis la route, suis le fil du soleil dans mes cieux. Raison rouge pour médaille, une bataille est tout court. Quand le voyage m'enlace, ce qui nous lie est là. Et moi, je passe. Je passe, je passe. Quoi mon talent, mon écorce. Quoi mes forces, le chagrin a pris sa route. Moi je doute encore.
chez-moi est ailleurs, mon chez-moi est si loin. En attendant, je pars.
Et c'est sur ces notes de Camélia Jordana, la bande originale de Ce qui nous lie, le film de Cédric Clapiche, que j'accueille dans ce studio mes collègues et amis critiques, Gaël Golen de Première, Thierry Chaise de Studio Ciné Live et Barbara Théâtre du JDD. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
On a un gros programme aujourd'hui, hein, Le Brio, Battle of the Sex, Madame et Marilyn. Et comme on parlait de Camélia Jordana, on va commencer par Le Brio d'Yvan Attal avec cette actrice et Daniel Auteuil qui est Pierre Mazard, prof de droit à Assas. Daniel Auteuil réac, un poil raciste, qui voit débouler dans son amphithéâtre Naïla qui va devant elle enchaîner les réflexions un peu déplacées. Sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui avec les smartphones, eh bien, tout est filmé, donc sa direction, on va voir sur internet cette séquence, et va lui dire que s'il veut s'en sortir et s'il veut pas passer devant le conseil de discipline, eh bien, il va falloir qu'il forme et qu'il présente Naïla à un concours d'éloquence. Voilà, évidemment, vous avez déjà compris la fin du film, mais est-ce que ça vaut quand même le coup d'aller le voir, chère Barbara Théâtre ?
Pourquoi pas, si vous avez envie d'entendre une belle langue, des belles répliques, et puis surtout de découvrir Camélia Jordana. Moi, je la trouve vraiment... Elle trace son sillon de bonne actrice, elle est surprenante, et puis le face-à-face avec Daniel Auteuil fonctionne bien. Après, si vous avez vu le documentaire
À voix haute
sur l'éloquence, il y a une petite redite, mais bon, écoutez...
Il y a surtout La Vraie Vie et Daniel Auteuil qui joue les réacs, et bon...
Voilà, mais je trouve que pour le duel, c'est pas si désagréable que ça, et puis voilà.
Gaël Golen, Le Brio.
Ouais, faut y aller. Alors, faut y aller. Mais si, parce que vous étiez en train de dire des méchancetés sur Daniel Auteuil, mais Daniel Auteuil. Non,
j'aime
c'est
beaucoup
vrai.
Daniel Auteuil.
Mais Daniel Auteuil, là, c'est Monsieur Miyagi, c'est-à-dire que c'est le karaté kid de l'éloquence en fait, Le Brio. Donc c'est super. Vraiment, ils font que ça, répéter les bons mouvements. La wax, tout ça, je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça sympa.
C'est lumineux.
C'est un bon moment, quoi. Pardon, Barbara. Non, mais c'est moins pertinent et moins fort que le documentaire. Mais
à
je pense.
En VOD, DVD, faut pas hésiter à aller le voir.
Ça, c'est vrai. Mais je pense que ça fait un complément de programme, comme on dit, qui est tout à fait acceptable.
Je trouve que la vision de banlieue est pas trop caricaturale pour une fois. Non, moi je la trouve plutôt rigolote, piquante. Voilà, il y a un petit côté. Moi, ça m'a plu, ça, par contre.
Richesse, Le Brio.
Oui, c'est sympathique. Moi, j'ai l'impression de voir un cinéaste vraiment en convalescence, parce que le film d'avant, qui était ce film à sketch sur les Juifs, n'a ni marché en salle, ni marché côté critique.
Ils sont partout.
Et que là, d'un coup, c'est le film qui permet de revenir dans le jeu. En effet, on s'attend à tout, mais en même temps, il y a plein de films anglais ou américains que j'adore, on s'attend à tout. Donc, et ça vaut pour le face-à-face entre les deux.
Pour le duo.
Mais oui, ça vaut pour le duo. Parce que le documentaire, surtout, c'est qu'on a l'impression que ça sonne faux quand on voit la fiction. C'est pas une redite, c'est que. Mais le film n'est pas. L'éloquence n'est qu'un. C'est un film sur le vivre ensemble, dont l'éloquence n'est qu'une petite partie. Donc voilà, on passe pas un mauvais moment, sincèrement.
Comment s'accepter entre un réac de droite et une jeune fille de banlieue.
Et on se dit que, voilà, pour Yvan Attal, c'est une manière de pouvoir faire le film suivant un peu plus tranquillement, avec un peu plus de moyens, et voilà, être un peu plus soutenu.
Voilà pour Le Brio d'Yvan Attal avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil.
Tout le 7ème art est sur Europe 1.
Mathieu Charrier.
Deuxième film dont on débat aujourd'hui, alors là ça n'a rien à voir, c'est Battle of the Sex de Valérie Faris et Jonathan Dayton qui avait notamment fait Little Miss Sunshine. C'est basé sur une histoire vraie en 1972 avec Billie Jean King, joueuse de tennis campée par Emma Stone, joueuse de tennis féministe d'ailleurs, qui organise une grève des joueuses parce qu'à l'époque à l'US Open, faut savoir qu'elle gagnait 8 fois moins que les hommes. Face à elle, Bobby Riggs, qui lui est joué par Steve Carell, qui a 55 ans, qui est un tennisman en semi-retraite un peu bedonnant, qui aime beaucoup la provocation et qui va défier Billie Jean King sur le court, qui va dire bah, voyons si c'est les joueurs ou les joueuses qui jouent le mieux et s'ils méritent vraiment les mêmes primes de match. Il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie, comme je le disais, qu'il y a eu 50 millions de spectateurs devant ce match qui a bien eu lieu. Et donc on revit tout ça à l'écran, Thierry Chaise.
Moi j'ai vraiment bien aimé. Alors, je ne connaissais pas ce match, donc sans doute si on ne connaît pas l'histoire de A à Z, c'est encore mieux. Mais il y a un face-à-face, là aussi, intéressant et encore plus fort pour moi que Yvan Attal, Camélia Jordana, c'est Steve Carell et Emma Stone. C'est-à-dire que les deux, bon, Steve Carell se régale, il faut dire que le personnage, c'est pour un acteur,
cette espèce de
c'est magnifique,
beauf,
le beauf total, chaque phrase mise une après les autres, en soi même c'est déjà un film, donc c'est formidable. Et puis il y a Emma Stone qui a tourné ce film juste avant La La Land, et qui a aussi, elle vient de la comédie, là où elle était formidable c'est aussi dans les Saturday Night Live, c'est dans les premiers films qu'elle faisait, c'était ça, Zombieland, on se souvient et tout ça, et donc là c'est, elle est aussi sur son terrain de jeu favori, et que ça marche, et en plus comme ils savent faire des feel good movies, le duo de réalisateurs, c'est vraiment parfait. Le feel good féministe de la semaine, c'est celui-là, il faut aller le voir.
Et c'est vrai qu'on repense au fait qu'aujourd'hui encore, il y a très peu de sports où les hommes gagnent autant que les femmes, et inversement. Gaël Golen, Battle of the Sex.
Moi, j'aime beaucoup les joggings de Steve Carell.
70s.
Ouais. Il est formidable. Et puis, c'est dans Vrac. Enfin, il y a vraiment des trucs super. Je trouve ça pas mal. Vous allez me prendre pour un vrai schizophrène. Vous aurez sans doute pas totalement tort, mais je trouve que par rapport à justement à ce match et à l'histoire vraie, le film est un peu gentil, un peu propre, on va dire. C'est-à-dire que c'est un film qui est très sympa, qui est effectivement porté par des acteurs de première classe qui s'en donnent à cœur joie. Je trouve que voilà, on est quand même à cette époque-là où on a en spectre, enfin on a en vision de fond le duel Trump-Hillary Clinton. Il y a quand même, c'est un sujet qui est vraiment très lourd et très
d'aujourd'hui, c'est assumé.
Voilà. Mais vraiment, ça va pas beaucoup plus loin. Ils essayent pas de creuser vraiment ça. Alors, ça, c'est très sympa. Il y a un côté, effectivement, très entraînant et très, très lumineux. Voilà. C'est le seul bémol que je donnerais. Sinon, le film est effectivement très, très, très sympa à regarder.
Barbara Théat, Battle of the Sex.
Moi, j'ai bien aimé aussi. De toute façon, j'ai une passion pour Steve Carell. Je le trouve incroyable, il est capable de tout jouer, d'être drôle, d'être grave, pour moi c'est une espèce de Robert De Niro, mais voilà, qui va se révéler et formidable. Et puis il y a un vrai discours féministe et ça fait du bien en ces temps où la parole se libère. Voilà, ben le jeu se libère aussi, la balle se libère et voilà.
Et voilà pour Battle of the Sex.
D'ailleurs, c'est une semaine pour les femmes, puisque après nous allons parler de
de Madame.
Et ben voilà.
Et ben allons-y, parlons-en Madame d'Amanda Sterz, puisque vous avez très envie d'en parler avec Rossi de Palma, Anna et Bob, Tony Collette, Harvey Keitel sont un couple d'Américains fortunés qui vivent à Paris. Ils organisent un grand dîner, ils doivent être 12, sauf qu'il y a le fils de monsieur qui débarque, ils se retrouvent 13 à table, inenvisageable pour la maîtresse de maison, parce que c'est un grand dîner et ça va porter malheur. Alors elle demande à sa domestique, jouée par Rossi de Palma, de bien vouloir venir s'installer à table sans dévoiler sa vraie identité. Sauf que, pas de chance, elle va tomber amoureuse d'un autre convive et vice-versa. Et une idylle va se nouer avec beaucoup de jalousie derrière. Alors les amis, on va pas y passer trop de temps parce que je sais que c'est pas votre film de la semaine. Thierry Chaise.
Bon, on sait dès le premier plan que c'est raté. Moi, je vois Harvey Keitel et Tony Collette faire du Vélib. Ça marche pas.
Alors,
moi,
c'est presque le seul plan que j'aime bien dans le film.
Mais on dit que ça marche. Moi, j'ai vraiment cru que c'était quand vous avez fait une blague, c'est-à-dire qu'on vous avait amené devant un film qui n'a pas été tourné et qu'on filmait la réaction des journalistes qui le regardaient. C'est pas drôle, pas émouvant, pas écrit, pas filmé. Joué par des gens qui sont perdus. Alors aussi des Palma, et c'est un peu d'agiter quelque chose, mais c'est étonnant. Non, mais c'est quelque chose. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu un tel nanar. C'est inouï en fait. C'est inouï. Chaque minute est encore plus forte que la précédente. Rendez-nous Claude Chabrol s'il faut parler de la bourgeoisie. Voilà.
Barbara Théâtre, Madame d'Amanda Sterz.
Affligeant, mais le niveau zéro du cinéma, il n'y a aucune idée, il n'y a aucun plan de cinéma. Que la pauvre aussi de Palma, que moi j'adore, mais même là, elle n'arrive pas à sauver le truc. C'est une espèce de cendrillon, mais tellement raté. Là, la pauvre Amanda Sterz n'a pas été inspirée. Hein.
Voilà, on n'en dira pas plus. Madame d'Amanda Sterz, on vous conseille plutôt Battle of the Sex et Le Brio d'Yvan Attal. Et dans un instant, on va revenir sur Marilyn de Guillaume Gallienne, qui a démarré très timidement dans les salles. Eh bien, on va en parler tous ensemble, à tout de suite.
Un dimanche de cinéma. Tout le 7e art est sur Europe 1. Europe 1, un dimanche de cinéma. Mathieu Charrier.
Et on est toujours en compagnie dans La vie des autres de Barbara Théâtre du JDD, Gaël Golen de Première et Thierry Chaise de Studio Ciné Live. On a beaucoup aimé Battle of the Sex, on a pas mal aimé Le Brio, on a détesté Madame, il nous en reste un. C'est Marilyn de Guillaume Gallienne qu'on a reçu il y a quelques temps dans cette émission. Avec Adeline Dermy de la Comédie Française qui joue donc Marilyn, qui a grandi dans un petit village, une maison au volet clos, des parents qui ne recevaient pas grand monde, qui n'a pas vraiment été formée à la parole ou au fait de savoir se défendre et qui va monter à Paris pour devenir comédienne, sauf qu'elle va le tomber sur des réalisateurs un petit peu violents, on va dire, dans tous les sens du terme, et qu'elle ne va pas arriver à se défendre jusqu'à rencontrer Vanessa Paradis. La presse a été très mitigée sur ce film. Barbara Théâtre, Marilyn.
Moi aussi, j'étais très mitigée sur le film.
Je garde Thierry Chaise pour la fin parce que je sais qu'il va le défendre. Ouais. Allez-y, vous pouvez vous défouler.
Alors moi, le film dans le film du film dans le film... c'est tellement intello, mais gratuitement et sans intérêt. Adeline Dermy, sans se sentir plutôt pas mal, elle porte le film. Mais moi, cette fille qui se laisse faire, qui prend des coups, on a envie de lui dire, mais arrête, quoi.
Elle n'arrive pas, elle n'a pas les armes.
Mais oui, mais moi, je sais pas, j'ai envie de lui la secouer, de lui dire, mais réagis. Ça m'a tapé sur les nerfs, je n'ai pas supporté. J'aime beaucoup Guillaume Gallienne en tant qu'acteur, mais là, réalisateur. Non.
D'accord, Gaël Golen, Marilyn.
Je comprends pas de quoi on me parle, donc il y a des choses que j'aime bien par ailleurs, mais je comprends jamais le lien de cause à effet entre les scènes. D'un seul coup, on la voit boire, je sais pas pourquoi elle est alcoolique, on comprend rien. C'est vraiment un film qui est rempli de creux, de trous, et qui est très très compliqué à cerner.
Après, un mauvais film pour autant.
Je dis pas que c'est un mauvais film, je dis vraiment que je comprends pas ce qu'on me raconte, et je vois bien les modèles qu'il a dans son visage. C'est Cassavetes, c'est notamment le opening night de Cassavetes avec Gina Rowlands, mais je trouve que ça suffit pas en fait d'étaler, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont plus que des clins d'œil. Hein. Ça suffit pas d'étaler ces références. Je trouve qu'il y a il pêche à la fois par humilité, par orgueil presque dans ce film. C'est un drôle d'objet où on voit qu'il est quand même à la fois pas sûr de lui et qu'il veut prouver des choses. Quand je vous dis que je ne sais pas quoi en penser, c'est réel.
Bon, Thierry Chaise, défendez-le parce que moi je l'ai plutôt bien aimé. Je compte sur vous.
C'est pas que je l'ai aimé, c'est que j'ai adoré. Moi. Alors je comprends tout ce qui peut être dit, le côté un peu de guingois. Moi je trouve que quand on veut parler de la vie d'une actrice au cinéma, on nous montre toujours, depuis des années en exemple, Romy Schneider dans la scène de L'importance est d'aimer. Un film qu'il faut d'ailleurs revoir par ailleurs, qui n'est pas tout à fait brillant, je trouve. Là, je trouve qu'on est totalement dans la peau de cette comédienne. Moi, pendant la première heure, je suis d'accord avec toi, Barbara, j'avais envie de sortir de la salle tellement je suis oppressé. Mais ça, moi, j'aime bien au cinéma. Il se passe au moins quelque chose. Arrive ce moment avec Vanessa Paradis, que moi je n'ai jamais vu aussi bien depuis Noce Blanche, c'est-à-dire qu'en 4 scènes, elle fait mieux que 12 films qu'elle a pu faire avant. Et à partir de là, tout ce métier qu'elle n'arrivait pas à exprimer devient sa raison de vivre et sa raison d'être qu'elle avait en elle depuis le départ et qu'elle n'arrivait pas à formuler. J'adore cette trajectoire, je trouve qu'il s'amuse justement avec les codes du théâtre. Alors oui, c'est un peu théâtral, mais je trouve ce jeu avec le théâtre très intéressant, jusqu'à une scène clin d'œil à la fin avec qui est vraiment réussi avec Alice Paul. Au moins c'est barré. Moi, Guillaume et les garçons à table, il y avait un côté, on file droit, on sait où on va aller. Là, on ne sait pas où on va. Moi, j'ai été pris, elle m'a pris par la main, Adeline Dermy, et vraiment, si vous l'avez jamais vu au théâtre, si vous l'avez jamais vu encore, allez voir Adeline Dermy. Vous en souviendrez toute votre vie. Vous direz, ah oui, c'est comme quand vous avez vu Bonheur pour la première fois dans À nos amours. Voilà, Adeline Dermy, c'est le début d'une grande carrière.
Voilà, je lui laisse le mot de la fin parce que je suis plus d'accord avec lui qu'avec vous. Marilyn de Guillaume Gallienne. Rapidement, les amis, vos coups de cœur de la semaine, Barbara Théat.
Alors, une cinéaste qui se lance dans la série, c'est Zabou Breitman, qui signe Paris, etc. sur Canal à partir de lundi. Alors, elle est née dans la série puisqu'elle était la fille du scénariste de Thierry Lafronde. Et en fait, elle a attendu 50 ans pour s'y mettre, mais elle s'y met et elle fait une espèce de Sex and the City rencontre girls dans Paris avec une brochette d'actrices absolument extraordinaire, et il y a du cinéma dans cette série. C'est une série de films et ça peut parler aux garçons.
Gaël Golen, votre coup de cœur.
Jim and Andy, un documentaire sur Netflix qui parle d'un acteur, justement. On parlait d'une actrice, là c'est un acteur, en l'occurrence Jim Carrey. C'est l'histoire, c'est un making-of. En fait, c'est un documentaire making-of sur le tournage de Man on the Moon, qui était le film de Milos Forman sur Andy Kaufman, un comédien de stand-up américain très célèbre. Et en fait, le film, ce documentaire documente, enregistre la folie progressive de l'acteur Jim Carrey, qui s'est mis dans son personnage au point de plus faire la différence entre le réel et le cinéma. C'est extraordinaire. Extraordinaire.
Thierry Chaise.
On va rester sur Netflix avec un film qui s'appelle Mudbound de Deiris. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au fin fond de l'Amérique. Vient s'installer un couple de bourgeois américains persuadés qu'il est facile d'être paysan. Et à côté, c'est une ferme tenue par des métayers noirs qui ont réussi à être propriétaire. Les fils respectifs de ces familles reviennent de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient frères de combat. Quand ils reviennent, pour le jeune homme noir, il est impossible d'être de nouveau avec son pote blanc. Et c'est une vision de l'Amérique de cette époque-là, très brillant, très politique, qui ne sort donc pas en salle, mais directement sur Netflix.
Merci les amis. Je rappelle qu'on a aussi parlé de Marilyn, de Madame, de Battle of the Sex et du Brio. Thierry Chaise de Cio Ciné Live, Gaël Golen de Première et Barbara Théat du JDD. On vous retrouvera dans quelques temps pour parler d'autres films. La semaine prochaine, dans un dimanche de cinéma, on aura le plaisir de recevoir Alain Chabat à l'occasion de Santa et compagnie, l'un des films drôles, l'une des comédies de Noël. Merci à Thomas Caillet qui réalise l'émission, Vanessa Zach qui la prépare, Bertrand Rutili et Xavier Joly pour la direction artistique.